Radio Okapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Tout de suite, le sommaire. Circulation timide, les écoles fermées, la population sous le choc. C'est le tableau qu'affiche ce mercredi Oicha dans le Nord Kivu. Situation consécutive à la dernière attaque attribuée aux EDF. Attaque qui a coûté la vie à 26 personnes, dont 12 enfants. Lancement hier à Bukavu du projet de facilitation et intégration dans la région des Grands Lacs. Projet du gouvernement congolais avec le financement de la Banque mondiale. Son coût, 150 millions de dollars américains. Et puis, l'invité de ce midi, Luc Itongwa, chargé du tourisme et de l'alimentation des animaux au centre de réhabilitation des primates de l'Uiro, au Sud Kivu. Un centre créé en 2002 pour détraumatiser les primates orphelins. Madame, Messieurs, bonjour. Au lendemain de la nouvelle attaque attribuée aux rebelles des EDF dans la commune rurale d'Oicha au Nord Kivu, la population s'est réveillée sous le choc ce matin. Certes, la circulation a repris timidement, mais les écoles restent fermées. Pendant ce temps, les autorités administratives et militaires appellent la population à l'apaisement et indiquent qu'une commission d'enquête va se rendre à Oicha pour faire le point sur cette énième attaque qui a coûté la vie à 26 personnes, dont 12 enfants. Le récit de Marc Marofimbo.
La vie tournée au ralenti ce mercredi à Oicha. Quelques boutiques ont bien ouvert leurs portes ainsi que des lieux de vente de médicaments qui font l'office des pharmacies. Mais toutes les écoles restent fermées. Au marché central d'Oicha, ce n'était pas non plus la grande foule des jours ordinaires. En peine, quelques étalages sont occupés par les vendeurs. Pourtant, les jeudis, c'est les jours du marché. Non loin de là, on peut voir ça et là des habitants occupés à ramasser du haricot et quelques sacs de farine de maïs épargnés par les feux à la suite de la colère des populations hier au site de distribution de vivres aux déplacés. Oicha est encore sous le choc. Au lendemain du massacre d'au moins 26 personnes, dont 12 enfants lundi soir, dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des EDF. Hier, une vivitation a secoué cette commune rurale où des jeunes en colère ont incendié 3 véhicules affrétés par une agence humanitaire de l'ONU qui transportait des vivres destinés aux déplacés. Le colonel Charles Euta Omeonga, administrateur militaire du territoire de Beni, appelle la population au calme.
La population de Oicha, ayez vos apaisements, laissez les services de sécurité faire son travail. En dehors de ça, il y a toute une délégation qui vient de par-ci par-là pour venir enquêter et savoir qu'est-ce qui se passe à Oicha.
Signalons que des échanges sont actuellement en cours entre les autorités et la société civile d'Oicha pour l'enterrement des personnes tuées lors de cette attaque. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Par ailleurs, une accalmie qualifiée de précaire par plusieurs sources règne ce mercredi dans la partie nord du territoire de Niragongo. Nous sommes toujours au Nord Kivu. C'est après des violents combats toute la journée d'hier jusque tard dans la nuit. Ils opposaient l'armée congolaise, les groupes armés locaux aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Une base de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, aurait été prise pour cible pendant ces combats à Kibumba. Nous venons de l'apprendre, 7 morts et plus de 100 rescapés. C'est le bilan définitif d'un naufrage survenu le samedi 21 octobre sur le fleuve Congo au niveau du village Ngabenge dans le territoire de Bolobo, province de Maïndombe. Selon l'administrateur de ce territoire qui livre l'information, le nombre des disparus n'est pas connu faute des manifestes. Jonathan Epoma indique qu'il s'agit des 2 baleinières dont l'une de la RDC et l'autre de la République du Congo qui sont entrées en collision. Les causes principales de cet accident seraient notamment la navigation nocturne et l'imprudence du conducteur de la baleinière du Congo-Brazzaville qui n'a pas su respecter sa bande, a rapporté l'autorité territoriale de Bolobo. Jonathan Epoma l'a dit au téléphone de Irène Boma.
C'était une collision de 2 baleinières. L'autre baleinière, c'est les baleinières des pays en face de la République du Congo, Congo-Brazza, et l'autre baleinière de la République démocratique du Congo, RDC. Celle de la République démocratique RDC, c'était en provenance de Kinshasa pour la province du Sud, Ubangi. Cette collision avait eu lieu au niveau du village Ngabenge, dans le territoire de Bolobo, province de Maïndombe. On a connu un cas de naufrage. Actuellement, nous avons une statistique de 107 rescapés, 7 morts et comme on n'a pas la liste de tout le monde qui était dans cette embarcation, nous ne connaissons pas vraiment le nombre de disparus. Mais nous avons rien que la statistique des rescapés et des corps retrouvés, tous du Congo-Brazzaville. Du côté de la bannière de la RDC, il n'y a aucune perte de vie humaine. La première cause, c'était la navigation nocturne. Et la deuxième cause, c'était l'imprudence de la part du conducteur de la baleinière du Congo RC. Il avait dévié sa bande pour arriver à notre côté. Le bilan définitif pour nous, c'est 7 morts et 107 rescapés.
Par ailleurs, le président du caucus des sénateurs de la province de l'Équateur a présenté sa compassion envers les familles affectées par les deux cas de naufrage survenus à Mbandaka le 14 octobre et à Bolomba le 21 octobre dernier. C'était au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa hier dans l'après-midi. Le sénateur Tristan Itumba, président du groupe des sénateurs de l'Équateur, demande au gouvernement d'engager des réformes devant améliorer les conditions de transport sur le fleuve Congo et ses affluents. Il le dit au micro de Tati Mapoku.
Je vous rappelle que ça fait 400 personnes qui sont décédées morts lors de ces naufrages, de ces bateaux que nous appelons bateaux de fortune Ibora plutôt. Et donc, ce sont des atteintes graves contre l'humanité qui sont encore portées, qui frappent notre pays alors que donc nous ne pouvons qu'être attristés. Donc ici, il s'agit pour nous d'interpeller encore la responsabilité du gouvernement. Il faudrait une certaine assumation de responsabilité de ce corps qui est appelé à gérer la politique multisectorielle de l'État, la politique du transport. Je vous signale que le gouvernement doit savoir que le fleuve constitue une sorte d'autoroute fluviale et que le gouvernement peut mettre des moyens logistiques à disposition pour que les Congolais puissent vaquer librement dans leur façon de circuler, tant pour faire du transport au niveau commercial, mais tant aussi pour faire du transport au niveau touristique.
Je vous le disais en titre, lancement hier à Bukavu du projet de facilitation et intégration dans la région des Grands Lacs, un projet du gouvernement congolais qui bénéficie du financement de la Banque mondiale de l'ordre de 150 millions de dollars américains. Au nombre de ses objectifs figurent la facilitation du commerce transfrontalier, l'amélioration des infrastructures et la simplification des procédures pour le petit commerce. Explication Emmanuel Elamegi.
Le projet de facilitation du commerce et d'intégration dans la région de Grands Lacs vise l'accessibilité au marché et l'accompagnement des producteurs locaux, mais aussi le cadre réglementaire du commerce transfrontalier.
Il sera question de la simplification des procédures pour les petits commerçants et réformes politiques. Il sera question de la mise en œuvre des systèmes de frontières intelligentes et aussi il sera question de l'intégration régionale de la coordination et du suivi dans les cadres du commerce.
Ce projet vise également l'amélioration des infrastructures commerciales de base.
Il y aura la réhabilitation et la modernisation des postes frontières de Kavivira, Nyamoma, le poste frontière de Rubenga et celui de Kamanyola et de Kiliba. Il y aura la construction et l'aménagement des marchés transfrontaliers, notamment à Bunagana, à Bukavu, à Kavivira et à Kasindi. On fera la réhabilitation de la voie d'accès aux postes frontières de Rubenga, les ponts entre la RDC et le Burundi sur la rivière Ruzizi.
Signalons que ce projet aide la RDC à répertorier tous les mouvements aux frontières. C'est notamment la quantité de légumes, de farines, de fruits et même le nombre de bétail qui traversent nos frontières. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Direction l'Ituri, une trentaine de femmes venues des différentes entités coutumières du territoire d'Irumu s'engagent à œuvrer pour la cohésion sociale entre les populations locales. C'était au cours d'un atelier de renforcement des capacités des femmes leaders communautaires sur le processus électoral. Atelier de deux jours ouvert hier à Bogoro, nous sommes à 25 km au sud de Bunia. Cette activité est organisée par la section genre de la MONUSCO en vue de les impliquer dans la gestion pacifique des conflits, cela dans le but de prévenir des tensions politiques qui peuvent saper les efforts déjà fournis pour rapprocher les communautés. Jean-Claude Loki, reportage.
Bogoro, où se tient cet atelier, est l'une des entités sinistrées qui, vers les années 2000, a subi les affres de la guerre à cause des conflits interethniques. Pascaline Matoya estime qu'il est important de consolider l'élan de cohabitation pacifique qui s'observe dans cette zone où les populations des différents groupes ethniques se fréquentent sans problème.
À voir comment les populations des cotonniers de Bogoro se fréquentent, nous ne voulons plus que les tireurs de ficelles viennent déstabiliser nos entités en voulant inciter les deux communautés à ne plus se fréquenter.
Le but de la démarche et de la section genre de la MONUSCO est également d'inciter les femmes leaders à être des actrices de paix durant toute la période électorale. À cette occasion, Patience Tandek invite ses collègues femmes à ne pas se fier aux cadeaux que vont ramener des candidats, mais plutôt à voter pour ceux qui réellement vont défendre les causes de la population.
Avant de voter pour un candidat, il faut bien réfléchir et se demander si réellement il mérite notre confiance. Nous voulons élire des personnes qui vont nous aider. Ils vont acheter votre conscience, mais après les avoir élus, ils s'en vont.
Les participantes proviennent des différents villages dont Kotoni, Lagabo, Bogoro, dans les secteurs de Walendu Tati, Bahema Sud et la chefferie de Walendu Bindi. De retour de Bogoro, Jean-Claude Lucky, Dilaire, Radio Okapi.
Parlant des élections, les témoins des partis ou regroupements politiques, des candidats indépendants, des observateurs nationaux et internationaux sont désormais appelés à s'accréditer à la CENI jusqu'au 5 décembre prochain. Cet appel est contenu dans un communiqué de presse rendu public hier par la centrale électorale. Les internationaux doivent solliciter leur invitation auprès du gouvernement de la République par l'entremise du ministère des Affaires étrangères en vue de leur accréditation conséquente par la CENI, précise ce communiqué. Le condensé de ce communiqué de presse réalisé par Grace Samzati, rendu par Blaise Ndongala Mayanda.
La CENI invite les partis et regroupements politiques, les candidats indépendants, les organisations de la société civile, ainsi que les organes de presse nationaux qui veulent participer à la couverture médiatique ou à l'observation des élections générales, de prendre contact avec les secrétaires exécutifs provinciaux situés au chef-lieu des provinces et les antennes de la CENI au niveau des territoires et villes de la RDC. Quant aux modalités pratiques, il faut retirer les formulaires de demande d'accréditation auprès de la CENI au secrétariat exécutif national pour les internationaux, au CEP et aux antennes pour les nationaux ou encore sur les sites internet de la CENI. Il faut ensuite les remplir correctement. L'accréditation est faite pour les opérations de vote et de dépouillement, c'est-à-dire une accréditation pour les opérations de vote et de dépouillement ne vaut pas pour les opérations de compilation des résultats, affirme la CENI. Pour la compilation des résultats au centre et locaux de compilation, il faudra solliciter à la même occasion une autre accréditation poursuit les mêmes communiqués. Tous ceux qui sollicitent l'accréditation ont un code ou une charte de bonne conduite électorale à signer au préalable, peut-on lire dans ces communiqués de la CENI.
Et au sujet des contentieux électoraux devant la Cour constitutionnelle, les requêtes en invalidation des candidatures à la présidentielle s'enchaînent aux greffes électorales de cette Cour, après celle d'un Congolais du nom de Tshivwadi Mansanga contre la candidature de Moïse Katumbi. C'est au tour du candidat Seth Kikuni de demander l'invalidation de la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidentielle de décembre prochain, d'où au quid de la qualité de requérant du délai de traitement des contentieux électoraux devant la Cour constitutionnelle, des causes d'irrécevabilité. À la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle le samedi dernier au Palais du Peuple, le procureur général près cette Cour et le président de cette institution ont largement tablé sur cette problématique. Jeff Ngoy.
En matière électorale, l'aboutissement de toute action en contestation ou en restauration du droit reste largement tributaire de l'observance stricte de la procédure, selon le procureur général près la Cour constitutionnelle. Parlant de principales causes d'irrécevabilité des requêtes en contestation de candidature, Mukolonko Kesha souligne le défaut de qualité du requérant, le non-respect des formes prescrites et celui du délai. Le juge électoral peut également invalider une liste électorale lorsque le requérant en contestation de son invalidation par la CENI n'apporte pas la preuve matérielle de la caution payée et pièces exigées. Chaque candidat indépendant, un parti ou regroupement politique ayant présenté un candidat dans la circonscription électorale concernée peut contester une candidature pour cause d'inéligibilité. Pour que la liste d'un parti ou regroupement politique soit déclarée recevable, ce dernier doit présenter 60% des sièges en compétition, soit un minimum de 344 pour la députation nationale. Concernant le délai, le contentieux de candidat doit être initié 5 jours après la publication des candidatures pour les élections législatives nationales et 48 heures pour celles de la présidentielle. Le juge a 10 jours pour statuer.
Notez qu'un autre candidat à la présidentielle de décembre prochain, Noël Tchiani, a déposé hier sa requête en contestation de la candidature de Moïse Katumbi. Et puis, l'Assemblée nationale a examiné hier le rapport de la commission ECOFIN relatif au projet de loi des finances de l'exercice 2024. À l'issue d'un débat sur le contenu de ce rapport, 350 députés sur les 351 présents à la plénière ont voté pour. En conséquence, la Chambre basse du Parlement a adopté le budget 2024 et va le transmettre au Sénat pour une seconde lecture. Mais avant le début de l'examen de cette plénière, certains députés ont exigé un huis clos afin de revendiquer le reste de leurs indemnités de sortie et les arriérés des frais appelés de lecture à payer avant d'aller en campagne. Michel Kifindangoy.
Comme souhaité par les députés, la plénière de ce mardi a débuté avec un huis clos afin de statuer sur les indemnités à payer avant d'aller en vacances parlementaires. Il n'est donc pas question de 3 mois d'arriérés de paye, souligne le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso.
Il n'y a pas d'arriérés de salaire ici. Nous nous sommes réunis en huis clos pour des dispositifs pratiques pour notre départ en congé. Aucun député ne réclame 3 mois d'arriéré de salaire. Donc faisons attention à tout.
Après cette mise au point, vient l'examen du rapport de la commission ECOFIN relatif au projet du budget 2024. Le président de cette commission en fait ici l'économie, Boris Mboukou.
La nouvelle configuration du budget pour l'exercice 2024 se présente de la manière suivante. Recette totale, 40 453 milliards francs congolais. Dépenses totales, 40 534 milliards. La pression fiscale passe de 13,2% à 13,5%.
Et c'est dans ce contexte que l'Assemblée nationale vient de voter le budget 2024 qui sera transmis au Sénat pour une seconde lecture.
En sport, tournoi qualificatif des Jeux Olympiques Paris 2024, les Léopards d'âme reçoivent les Banyana Banyana d'Afrique du Sud tout à l'heure à 15h30 heure de Kinshasa au Stade des Martyrs. Un match comptant pour le deuxième tour des éliminatoires Zone Afrique. Les Congolaises vont jouer ce match sans entraînement. Elles ont ainsi déclenché un mouvement de grève pour réclamer la prime du match qu'elles ont livré le mois dernier contre les Amazones du Bénin. Reportage de Vanessa Nkongolo.
Tout a commencé après les entraînements du lundi matin. Les Léopards seniors d'âme ont décidé de ne plus s'entraîner pour réclamer la prime de la double confrontation du match Bénin-RDC. Elles ont d'abord boycotté l'entraînement du lundi soir, puis l'entraînement officiel de la veille du match prévu mardi soir. À leur hôtel hier soir, elles étaient toutes sorties pour protester contre les propos qu'elles ont jugés irrespectueux et discriminatoires d'un des dirigeants qui, selon leur dire, a demandé à celles qui ne veulent pas jouer de quitter l'hôtel. Il y a quelques semaines, le ministre des Sports, François-Claude Kaboulo-Mwana-Kaboulo, avait promis aux Léopards d'âme un traitement semblable à celui des hommes. Promesse non tenue au vu de la situation actuelle. Pour l'instant, nous apprenons des sources proches de l'équipe que les Léopards d'âme vont jouer le match contre le Banyana Banyana, champion d'Afrique en titre, en espérant qu'elles vont rentrer dans leur droit. Pour rappel, les Léopards d'âme ont plus de 17 matchs pour certaines sans prime. Match RDC Afrique du Sud est à suivre en direct et en intégralité sur les ondes de la radio Okapi et Bana Okapi à partir de 15h30, heure de Kinshasa.
Actualité internationale.
Nous sommes en Gambie. Signalons la reprise du procès dans l'affaire des 70 enfants morts en 2022 après avoir consommé un sirop contre la toux. Le procès a repris hier au tribunal de grande instance de Banjul, la capitale de la Gambie. Alors que 20 familles endeuillées ont engagé des poursuites judiciaires, la séance a dû être ajournée au 7 novembre du fait de l'absence des 3 accusés représentant l'État.
L'invité.
Il nous vient de Bukavu, c'est le chargé du tourisme et de l'alimentation des animaux au centre de réhabilitation des primates de Luiro au sud Kivu, un centre créé en 2002 pour détraumatiser les primates orphelins notamment. Luc Itongwa répond aux questions de Rachel Kiesé.
Monsieur Luc Itongwa, bonjour.
Oui, bonjour.
Ici, nous sommes au centre de réhabilitation des primates de Luiro. C'est quoi?
Le centre de réhabilitation des primates de Luiro, c'est là où on prend soin des animaux sauvages. Les animaux qui étaient capturés dans les mains de braconniers et des trafiquants. Ce centre d'abord a été créé en 2002 par trois organisations, notamment l'ISSN, CRSN et ONG Coopéra. ISSN a comme rôle de récupérer tous les animaux qui sont dans le milieu de teneur et de porter ici à l'Uro. Et le centre de l'Uro donne l'espace là où on va garder ces animaux. Coopéra prend soin de ces animaux-là. Ici, nous gardons les animaux qui sont récupérés dans le milieu des braconniers et des trafiquants, comme les chimpanzés et les singes traumatisés et orphelins.
Vous êtes là pour réhabiliter ces primates. Qu'est-ce que vous faites pour détraumatiser ces animaux?
Pour détraumatiser, on les garde ici pour un temps et un jour on va les remettre dans leur milieu naturel. On est en train de protéger ces animaux pour qu'on ne puisse pas les perdre dans notre pays.
Et ce sont des animaux qui ont connu quoi comme traumatisme?
Donc, dans les crimes de guerre, ils sont tués leurs parents, frères et sœurs pour qu'on puisse les prendre et les faire le trafic.
Et il y en a même qui ont été aussi détenus par des personnes privées.
Oui. Tous les animaux qu'on a ici, on avait récupéré ça des braconniers, trafiquants et des soldats.
Ici, donc, c'est un peu comme un orphelinat, mais des animaux, des singes.
Oui, c'est un orphelinat parce qu'on les garde ici pour prendre les soins, pour les nourrir jusqu'à ce qu'on va les remettre dans la forêt.
La période de traumatisation, ça prend combien de temps?
Ça peut prendre au moins 3 à 4 ans, mais on attend jusqu'à ce que la guerre va se terminer. Donc c'est ça où le traumatisme va se terminer.
À ce jour, combien de singes vous détenez ici au sein du centre de réhabilitation?
Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, on a déjà récupéré des braconniers et des trafiquants. On a déjà récupéré 135 chimpanzés, plus de 215 petits singes.
Et c'est quoi l'objectif de ce centre?
Notre objectif, c'est la réintroduction, de les remettre dans leur milieu naturel.
Et jusqu'à présent, depuis 2002, combien ont déjà été réintroduits dans leur espace naturel?
On ne peut pas le faire parce qu'ils sont récupérés dans la guerre. Jusqu'aujourd'hui, le Congo se trouve dans la guerre. On peut le faire, mais on ne peut pas mettre les espèces qu'on a en danger. Parce que dans la forêt, il y a les milices, il y a les braconniers, il y a les trafiquants, même il y a les soldats. Ils peuvent tuer ces animaux-là. Si on fait la visite, donc, vous voyez, la capacité de charge est élevée. Un petit rien qu'on donne ici, c'est pour aider, de nourrir et de prendre soin pour ces animaux ici qu'on a. Si on fait la visite, c'est parce que ce sont les animaux congolais. Deux, les Congolais doivent connaître, ici il y a quelque chose et ici il n'y a que l'animal. Et les expatriés, les touristes, ils doivent connaître qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont en danger, qui sont vraiment à niveau de disparition, c'est ça.
Quels sont les types des singes que vous détenez dans ce centre?
On a les chimpanzés communs, pour les singes on a le métis, on a le colobis, on a les ascanius, on a le mangabé, on a le babouin, on a le amlini, on a les computeurs, c'est ça.
Et vous nous avez fait comprendre que les animaux qui sont ici ne sont pas là pour but de reproduction.
Non, parce que la capacité de charge est élevée. Un, chaque individu consomme $50 par mois. Si on fait la reproduction, on va se limiter de 2, l'espace est limité. Nous nous occupons 10 hectares, il n'y a pas moyen. Pour ne pas se reproduire, on met la contraceptif pour les femelles. Ceux qui n'ont pas le contraceptif, on leur donne la pilule.
Vous êtes chargé de l'alimentation de ces animaux. De quoi se nourrissent ces singes que vous avez cités?
Ils se nourrissent de fruits comme goyave, avocat, mangue, tomate, patate. Patates douces, choux, maïs, haricots, prunes, tout ça.
Et quelle quantité par jour?
Par jour, chaque individu, pour les chimpanzés, il peut prendre par jour 7 à 8 kilos.
Et vous, en tant que chargé du tourisme aussi dans ce centre, quel conseil vous allez donner à ceux qui détiennent illégalement ces singes-là?
Le conseil que je peux donner, amener ces animaux et de nous appeler, on a quel animal, et nous, de venir auprès d'eux, de prendre ces animaux-là, de venir les garder ici, au CEREPEL, Centre de réhabilitation des primates de l'Uro.
Je vous remercie.
Moi aussi, je vous remercie.
Ainsi s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres.